Nous accueillons maintenant Marie-Claire au 3921. Bonsoir Marie-Claire.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Marie-Claire ?
Je vous appelle du Lot.
D'accord. Et quel âge avez-vous ?
48 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Marie-Claire ?
En fait, je voulais vous parler des violences.
Oui.
Et aussi, cet appel en antenne, c'était pour avoir des nouvelles de mes enfants. Je ne vois plus depuis à peu près une quinzaine d'années. Et c'était un et faire en fait vous expliquer sur un petit temps les raisons de ce parcours et pourquoi j'en suis arrivée là maintenant.
D'accord, mais je vous écoute.
Ben j'avais déjà expliqué à Florian en hors antenne. Donc au départ à l'âge de 17 quand j'étais enfant, j'avais subi des maltraitances
par mes parents. Lorsque vous étiez enfant?
Oui, lorsque j'étais enfant. Et ma mère m'a laissée en compagnie d'un homme de 27 ans. Elle est partie quand j'avais 14 ans. Et après ça, j'ai eu une première fille qui a eu à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai eu cet enfant très tôt. J'ai eu beaucoup de post-traumatiques, des maltraitances que j'avais subies et aussi des maltraitances que j'avais vues, malheureusement. Après, j'ai rencontré un autre homme et malheureusement, j'étais un peu une proie facile. Donc, vu que j'étais en grosse fragilité psychologique. Donc, j'ai eu trois autres enfants avec cet homme. Et de cette union avec ce monsieur, j'ai eu trois beaux enfants. Mais j'ai subi des viols collectifs. Donc, je suis replongée dans une forme de maltraitance et de...
Des viols collectifs de la part de cet homme ?
De cet homme, oui. C'était en région parisienne. Et donc après, j'ai eu deux autres enfants, mais je vais bref sur ce parcours, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très long à expliquer. Et comme ça, l'émission, c'est... Et après, j'ai eu deux autres enfants, Eric et Marie-Ange. Et de là, j'ai essayé de retrouver mes enfants, parce que le papa en avait la garde en 99, et il n'arrêtait pas de déménager. Donc moi, je perdais la trace au fur et à mesure de leur lieu de vie, en fait. Et aussi pour retrouver ma grande, qui avait fugué à 15 ans, qui ne voulait pas revenir à la maison. C'était assez compliqué, j'avais que 27 ans à l'époque. Oui. Donc c'était vraiment quelque chose qui était très prenant pour moi. Donc je n'ai pas pu me stabiliser professionnellement aussi. Et j'étais un peu comme dans un voile, vous voyez, entre deux mondes en fait. C'était en fait les post-traumatiques sur post-traumatiques m'ont indirectement protégée d'un suicide ou de l'alcool ou la drogue. Mais j'étais là sans vraiment être là en fait. Et mon dernier compagnon, bon, j'avais eu un petit garçon, et après j'ai eu une petite fille, puis il commençait à être violent, donc je lui ai demandé de quitter le domicile. Donc c'est ce qu'il a fait. Mais pendant 6 mois, il venait casser mon lieu de vie, quoi. Il rentrait dans l'appartement, il me brusquait, il me malmenait. Et j'étais enceinte, et quand j'ai accouché, un soir, il a attenté à ma vie, donc il y a eu une comparution immédiate. Qu'il puisse être incarcéré pour tentative de meurtre à mon encontre.
Oui.
Donc il a comparu, il a tout de suite été en prison. Malheureusement, le juge des enfants à l'époque a demandé le placement de ma fille. Il y avait déjà eu le placement de mon fils, que j'ai refusé naturellement, parce que j'étais pas une mère maltraitante. Et comme quand on passe au tribunal, on n'a pas le temps vraiment de s'exprimer sur notre situation. Et donc les juges, ils regardent notre dossier. Puis ils voient qu'on est déjà des enfants en grande difficulté, une famille difficile, donc on paye un peu le poids de cette famille, même si on s'insère dans la vie, on paye le poids d'une famille compliquée en fait. Donc il y avait eu trois autres enfants et pour eux j'étais une mauvaise maman quoi, et c'était pas des abandons, mais ils avaient mis ça dans mon dossier comme abandon d'enfant. Donc j'ai refusé le placement de ma fille Marie-Ange, donc je suis partie avec elle à l'étranger. Pendant un an, j'ai pris des avocats pédopsychiatres pour démontrer que je m'occupais bien de ma fille. Le problème, c'est que le pédopsychiatre, à force de le rencontrer, il a appris que j'étais en fuite. Donc avant l'alerte enlèvement, la France m'a demandé de revenir sur le territoire français. Sinon, j'étais en psychiatrie, on allait m'interner, quoi, en fait. Donc j'ai accepté. J'ai accepté qu'on vienne récupérer ma fille parce qu'on me l'avait retirée, la police me l'avait retirée. Et son état s'est dégradé, en fait. Elle était pas bien. Ça a été quelque chose qui a été vraiment très dur pour moi. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à supporter, en fait, cette séparation. Et là, mon retour de France, ben, j'ai vécu un peu à la rue. J'avais aucune aide sociale. J'attendais de passer en correctionnel pour enlèvement d'enfants. Donc, j'ai pas été incarcérée. Et j'ai pas pu la voir. Je la voyais une fois par semaine dans un milieu fermé, etc., etc. Mon fils, pareil. Et au fil des années, j'ai fait appel sur appel pour pouvoir récupérer mes deux enfants. Et les années qui ont suivi, mon fils a subi des maltraitances dans sa famille d'accueil. Il a été complètement déscolarisé. Il a eu une épilepsie frontale à force d'avoir reçu des coups. Marie-Ange, elle, son père, elle avait des droits d'hébergement le week-end, un week-end sur deux à l'âge de 4 ans. À l'âge de 7 ans, elle a déclaré avoir subi des violences sexuelles. À 14 ans, elle est revenue sur ses faits, mais le papa n'a toujours pas été incarcéré.
Est-ce qu'il a été inculpé ?
Non, pas du tout.
Non.
Il se disait qu'il n'y avait pas assez de preuves, alors que ma fille Marie-Ange était vraiment sûre de ce qu'elle disait, quoi. Et cet homme-là, voilà, c'était... Et moi, dans tout ça, donc, malheureusement, elle a été regarder son dossier, parce qu'un enfant a le droit de voir son dossier de l'aide sociale à l'enfance. Et là, dans son dossier, naturellement, mauvaise mère, etc., etc. Donc, elle a été complètement perturbée, choquée de ce qu'elle voyait sur ce dossier, des lettres de son père en disant que c'était moi qui m'a traité Marie, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai pris du recul, beaucoup de recul, parce que j'ai dû me reconstruire avec tout ça. Il faut aussi que j'apprenne à vivre, en fait, à vivre sans eux, à accepter cette situation. Donc, ça a été des années. Hein, de...
Mais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça a été des années très compliquées, votre vie, depuis le début, pratiquement.
Ben, depuis le début, oui. Ouais. En fait, depuis mon enfance, en fait. Depuis,
ouais.
Le départ, en fait, ma naissance. En fait, ma naissance, pour moi, ça a été... je le vis comme ça, hein. Je fais des soins énergétiques pour moi, en fait. J'ai fait une formation de Reiki et je lis beaucoup. Je lis beaucoup de lectures. Et indirectement, j'ai l'impression d'avoir la plume de Bobin, d'être avec quelque chose de l'univers qui me rappelle à mes sens. Et je me souviens, quand j'étais enfant, je regardais toujours le ciel avec des espérances, en me disant mais j'ai pas ma place dans cette famille. Et même dans l'utérus de ma mère, quand j'ai fait de l'hypnose, je me suis vue pleine de larmes et de chagrin dans l'utérus de ma mère. Mais c'était pas le mien, c'est le chagrin de ma mère, en fait. Donc ça va être comme cette mélancolie qui nous enracine et tout, qui nous... Je nais avec cette peine.
Oui.
C'est comme transgénérationnel, vous voyez, je sais pas comment...
Transgénérationnel.
C'est ça. Et c'est un parcours très compliqué, très difficile. Parce qu'il y a de la violence physique, il y a de la violence morale, j'ai aussi passé des étapes de... Comme je vous dis, c'était ce voile-là qui m'était entre... Comme si j'étais un peu endormie, quoi. Comme si j'étais, oui, endormie. Et quand le réveil s'est fait, ça a été difficile. J'ai eu mal à mon corps, j'ai eu mal à mon âme, en fait. Et pour pas sombrer, ben, je continue à espérer. Même maintenant, je ne fais plus de démarches auprès de la justice, parce que j'avais envoyé un document à mon avocate pour qu'elle écrit au ministère de la Justice pour demander réparation. J'ai pas eu de retour. J'ai plusieurs avocats qui ont abandonné mon dossier. Ça a été abandonné complètement.
Ce sont des avocats commis d'office, je suppose.
Il y avait des avocats commis d'office, mais à l'époque, quand je suis passée en correctionnel en Toulouse, c'était un grand avocat, c'était un bâtonnier. J'avais quand même une situation, j'étais avec un compagnon, donc j'ai pu me permettre de me payer un très très bon avocat.
Oui.
Donc ça m'a empêché l'incarcération. Mais aujourd'hui, ma fille, elle a 15 ans, moi j'en ai 48 ans, mes autres enfants, ça fait plus de 16 ans que je les vois plus. J'ai plus du tout de nouvelles d'eux. Et donc voilà, je vis, quoi, je vis cette vie. Mais je pense que je n'ai pas la même réflexion et la même logique que n'importe quelle personne, en fait. Avec un parcours comme ça, on est complètement différent.
Ben, ce parcours, il est, comme vous le dites, dès le début, marqué par, déjà par l'état de votre mère, visiblement, qui, vous avez eu, des discussions avec votre mère, d'ailleurs, concernant, ces
Non.
visions, en tout cas, vous avez fait de l'hypnose, hein, pour remonter.
Oui.
Ouais.
Bah, en fait, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas pu communiquer avec ma mère. Il n'y a pas eu de communication. Et comme je vous dis, à l'âge de 14 ans, elle m'a laissée dans une grande maison et elle est partie. En fait, elle s'est pas occupée vraiment. C'était assez curieux. En fait, il n'y avait pas de dialogue. C'était assez tabou. La sexualité, c'était tabou. C'était Je veux dire, il n'y avait pas de réconfort. Il y avait des réconforts jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Et après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'amour, en fait. Oui, je suis un enfant qui a pas eu d'amour. Après, quand on entend les psychiatres dire enfant maltraité, on va remaltraiter, c'est tout à fait faux. Moi, je suis bien vivante, j'en suis bien la preuve, pour dire c'est pas parce qu'on a été maltraité enfant qu'on va
Oui,
répéter de la maltraitance.
non, mais chacun, vous savez que chacun vit son
Voilà,
histoire à sa manière. Vous n'êtes pas
c'est ça.
constitué comme quelqu'un d'autre, en fait. Vous n'avez pas vous reproduit la violence. Maintenant, je dirais que vous avez, dès le début, vous savez, on dit souvent que lorsqu'on a rencontré des hommes violents, on recommence ça. Éternellement. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous?
Non, j'ai rencontré des hommes qui étaient violents, mais c'est quand j'étais, vous savez, quand j'étais en fragilité, en fait, j'étais une proie. Et maintenant, comme je suis éveillée, je suis plus la proie. Je sais dire non, en fait. Je sais que j'ai des schémas. Je travaille ça. C'est en fait, je travaillerai ça toujours en permanence, en fait. Ce sera jusqu'à toujours
Aujourd'hui,
de faire.
Vous vivez où? Vous vivez, vous travaillez, vous avez rétabli un certain équilibre?
En fait, je rétablis un équilibre en permanence. C'est-à-dire que j'ai un haut potentiel émotionnel, donc je suis obligée d'établir un équilibre tout le temps. J'ai double énergie qu'une personne qui va devoir faire quelque chose, elle va le faire avec son énergie réelle. Mais moi, je vais devoir employer une double énergie. Comment vous expliquer? Par exemple, les traumas, une porte qui se ferme derrière moi. Je vais apprendre à plus avoir de crainte de cette porte qui se ferme. Des choses qui ont été, qui se réveillent, de les travailler en permanence. Et donc je redouble d'énergie pour pas avoir mal, pour pas sombrer. Puis je reste une éternelle amoureuse, une éternelle amoureuse de la vie, avec un autre sens en fait émotionnel. Là, j'ai écrit un peu, parce qu'au départ, je me suis dit, je vais vous envoyer une vidéo. Je trouvais que c'était un peu plus. Et je peux vous lire ce que j'ai écrit?
Allez-y.
Alors, j'ai écrit, c'était pas moi. J'étais bercée d'un présent de lumière. Pourtant, ça m'a fait mal. J'étais déchirée. Je hurlais dans le silence des indifférents. Enfant cabossé, perdu, proie ou méchant. Un corps qui ne m'appartenait plus. Mon cœur anesthésié et mes yeux n'avaient plus d'âme. Je traversais des troubles de toutes sortes pendant des années. Lui, j'étais, je ne le sais plus, invisible. On m'a emprunté ma vie comme un bout de doudou sali, le corps violé, le sexe inanimé, année après année. Un jour, le voile des post-traumatiques se déchire, laisse place à une femme au corps fragile et à l'âme qui s'éveille de son coma. Comment réapprendre à s'aimer, à enlever les voies, à se protéger, savoir rire et sourire? Être bienveillant envers les autres. La distance sur ce vécu a été des années de silence et aujourd'hui je veux enfin dire et le crier, l'écrire et le jouer, le voir et le ressentir, l'aimer ce corps, cette âme, à toi, à vous, à ceux qui m'ont laissé sur la route, à mes enfants qui un jour apprendront à m'aimer dans le silence de leur indifférence, toutes ces années où l'Éternel ne m'a jamais quitté. J'aimerais tant qu'il caresse mon visage avec la douceur des anges, bercé par la mélodie de l'amour. Je l'ai vu, je l'ai senti, enfant, et pourtant je lui ai tourné le regard, moi aussi. Où était-elle, ma foi? J'en avais honte, alors qu'il est beau de se laisser jouir de l'écriture, écrire à l'éternel juste une poésie.
C'est très beau. C'est très beau.
Et j'écris depuis peu. Au début, j'écrivais, mais j'étais à la poubelle ce que j'écrivais. Et là, j'ai repris l'écriture depuis peu. Et en fait, c'est comme si c'était. Oui, je couche mes émotions sur le papier ou sur ma tablette. Ça me permet d'évacuer, mais en même temps, c'est. Tout me plaît. Et comme je disais aussi, j'ai appris aussi à accepter ce nouveau corps, parce que j'ai pas vu mon corps changer, j'ai l'adolescence et tout ça. Je vois toujours beaucoup plus, en fait. Je me satisfais pas, alors que je devrais me satisfaire de ce que j'ai. Mais je me vois pas. Vous voyez, quand je travaille dans des entreprises, ça se passe jamais bien, en fait.
Pourquoi ?
Ma logique. J'ai l'impression d'être un peu avant-gardiste, de voir les choses qui ne vont pas, ou d'être. Voilà, c'est. Je sais pas. Je me vois pas dans un centre culturel à faire de la couture.
Pourquoi de la couture dans un centre culturel ?
Parce que souvent, dans les villages, on a des centres culturels
ah oui,
ou
d'accord.
Des centres sociaux pour.
Oui.
Et je rêve de plus. Je rêve de voyages. Je rêve de choses qui sont.
Mais peut-être n'avez-vous pas trouvé encore votre place, votre vocation, en fait. J'ai l'impression que vous êtes une éternelle insatisfaite, que vous êtes en quête perpétuelle d'un quelque chose que vous n'avez pas encore même déterminé les contours. Vous cherchez sans savoir ce que vous cherchez.
Parce que c'est pas que je cherche. Parce que dans le monde où on vit, dans la société où on vit, les sentiments et les émotions se perdent. C'est pour ça qu'au départ, je me suis dit, est-ce que je vais aller...
Qu'entendez-vous par les sentiments et les émotions se perdent ?
Parce qu'on est tous sur Internet, on a des informations, on a des millions d'informations qui tournent,
oui, mais
qui tournent autour de nous.
On n'est pas obligé d'être victime de tout ça,
non.
Marie-Claire.
On
n'est pas obligé de se laisser embringuer par ce flux dont vous parlez. On peut,
Il y a des créateurs.
Comment ça ?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui s'éveillent, qui se réveillent. Mais je me disais, parler de la violence, parler de... Il y a des films, au cinéma, on voit que ça. Sur publicité, les gens ne font plus attention. On baigne dans ça, en fait. Et il y a la journée de la femme, la violence faite aux femmes. C'est toujours répétitif. Le mois de septembre, ça va être la journée de la femme. En fait, c'est des choses qui ne devraient pas être actées par une date. Ce serait le faire en continu. Et j'ai l'impression que, voilà, je parle de moi, pour moi. Hein, je pense, je ne sais pas ce que les autres pensent. Mais quand je parle de violence, j'ai l'impression que c'est un peu... rébarbatif, qu'on le répète, qu'est-ce que ça va être de plus ? Voilà, c'est bien sûr que la violence ne doit pas être faite aux femmes comme aux hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui subissent de la violence. Mais j'ai l'impression que ça prend moins d'ampleur, ça moins d'impact à l'humain.
Je crois que je ne saisis pas tout à fait ce que vous voulez dire, mais je pense que vous voulez, enfin, je pense que vous prenez tout. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous percevez, vous accumulez. Et j'ai l'impression que vous mettez de l'émotion partout, partout, partout. Or, je pense que vous devez travailler sur le fait de vous protéger. Lorsque je vous dis de chercher votre place, de vous concentrer plutôt sur vous, plutôt que vous laisser gagner par tout ce que vous me dites là. Parce que c'est... J'ai l'impression que dès que vous entendez quelque chose, vous l'analysez, vous le suranalysez, et enfin, il y a une journée, Il y a une journée des violences faites aux femmes. Et oui, si, il faut une date pour ça. Ça ne veut pas dire que ça fige la pensée qu'une journée à penser aux femmes qui sont victimes de violences. Vous prenez les choses... vous laissez submerger par l'émotion, en fait, Marie-Claire. Et je pense qu'avant toute chose, il faut que vous essayiez de trouver votre place, de savoir ce que vous voulez faire, de vous concentrer sur ce que vous voulez faire de votre vie. Et surtout, alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes submergé par tout ça. Peut-être est-ce l'accumulation de violence. Vous parlez beaucoup de violence, mais le monde n'est pas que violence. On peut voir dans le monde autre chose que la violence. On peut, dans son périmètre, dans sa vie, hein, et ce que j'appelle dans son périmètre, c'est-à-dire le matin, quand vous sortez de chez vous, avec les gens que vous croisez, avec l'évolution que vous allez avoir dans la journée, eh bien, vous pouvez vous vivre ces moments-là sans vous laisser gagner par une espèce de connexion au monde dans sa globalité et vous laisser submerger par tout ce qui vous envahit. C'est-à-dire que vous allez entendre parler, je ne sais pas, moi, par exemple, de ce qui se passe en Iran actuellement, et puis une minute après, des mères de soldats russes décédés sur le front, et vous allez penser à tout ça. J'ai l'impression que tout ça vous gagne. Et vous...
Non, parce que non, pas tout me gagne, heureusement, parce que je serais, comme vous dites, submergée d'émotions et je serais dans un état dépressif ou... Non, pas du tout. Je dirais...
c'est un peu confus, ce que vous me dites.
Oui, oui, les actualités actuelles, je les vois, je les entends. Je veux dire, c'est pas pour autant que je les prends à cœur, en fait. Je veux dire, je prends du recul sur les choses. Mais là, je viens de vous parler de mon vécu. Je viens de vous parler à peu près de mes 45 années de vie. Donc, je suis submergée par les émotions de mes 45 de vie, en fait. Ouais. Donc, dans ce dialogue qu'on a ensemble ce soir, c'est pas anodin, c'est quand même
quelque
chose...
Ah, mais je ne vous ai pas dit que c'était anodin.
Voilà.
Je vous dis que simplement, il faut que vous leviez le pied un peu et que vous occupiez de vous, là, de stabiliser...
Je m'occupe de moi, parce que bon, il n'y a personne qui va s'occuper de moi pour moi. Malheureusement, j'ai pas de famille et j'ai pas non plus d'amis, des vrais amis, parce que j'ai des connaissances, mais je n'ai pas des vrais amis.
Vous voyez quelqu'un, un psy ?
J'ai vu des thérapeutes pendant des années. Ça ne m'a pas spécialement aidée. Je ne vous le cache pas.
Qu'est-ce qui vous aide aujourd'hui, alors ? Dites-moi.
Ce qui m'aide aujourd'hui ?
Oui, qui vous aide ?
Qui m'aide ?
Oui, est-ce que vous pouvez parler d'hypnose tout à l'heure ? Est-ce que ça vous fait du bien ? Est-ce que ça vous calme ?
J'en ai fait qu'une fois de l'hypnose. Et en fait, qui m'aide ? C'est une très bonne question. Vous voyez, je m'étais pas posé la question. Si, bêtement, il y a une semaine, je me suis fait mal en faisant un footing. Bien sûr, ça, je suis une petite aparté par rapport à ce que vous me dites comme question. Et je vais aux urgences parce que j'avais super mal à ma jambe et j'ai dû me faire une déchirure musculaire, etc. Et quand je suis arrivée aux urgences, la dame, elle me demande... Est-ce que vous avez un proche, un numéro de téléphone de quelqu'un de confiance ? Et là, je me suis aperçue quand elle m'a dit ça, j'ai pris le temps de réfléchir, mais qui vais-je appeler ? En fait, j'ai personne de confiance autour de moi. C'est pas, j'ai pas cherché. Je suis pas un social, hein. Je sors, je vais au cinéma, je vais au théâtre, etc., etc. Mais l'amitié, ça se construit. Ça se fait pas en une journée. Donc, j'ai pas de personne avec qui j'ai construit une amitié. Je veux dire, ça fait que 4 ans que je suis à Cahors. Et en 4 ans, j'ai pas eu le temps de construire une amitié, en fait. Ce que je me suis construit, je pense que c'est ma personne, avant tout. Mon maître, mon intérieur. Avant d'aller vers l'extérieur, je m'aide moi-même. C'est pas d'être égocentrique, hein. C'est pas de dire, voilà, je passe à côté... du tout. Et c'est pour ça que c'est assez marrant ce que vous me dites, parce que ça me refait encore une réflexion. En fait, je suis très mentale. Peut-être, vous avez peut-être raison. Je ne suis peut-être pas submergée par les émotions, mais mon mental est toujours en réflexion. C'est
Mais,
une qualité quelque part,
ah, mais
parce que je...
je ne dis pas le contraire, mais je pense vraiment que ben, bon, ce chemin, vous devez le faire maintenant. Vous devez vous concentrer sur vous. Je pense que tout ce que vous faites pour vous, si vous le sentez, si ça vous fait du bien, si vous apprenez à dompter ce maître dont vous parlez intérieur avant de voir l'extérieur, c'est parfait. Bon, continuez comme ça, mais encore une fois, et on va être obligé de conclure parce qu'il y a encore beaucoup de monde ce soir qui appelle le 3921. Mon conseil est de bien vous concentrer sur ce que vous voulez faire de votre vie là à 48 ans, quelle direction vous voulez prendre et vous concentrer pour l'instant uniquement sur ça. Après, les amis viendront peut-être, après le bonheur viendra, après la stabilité que vous cherchez reviendront. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse, Marie-Claire.